Bonjour à toutes et à tous, c'est Mamie Twink et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Pour commencer, première règle, si vous voulez vous lancer dans l'exploration urbaine et aller visiter des lieux historiques abandonnés, sachez que c'est une pratique qui est interdite en France. Aller sur des propriétés privées n'est en général pas toléré. Cela dit, si vous décidez d'y aller à vos risques et périls vous-même, voici quelques règles. Tout d'abord, n'y allez surtout pas dans le but de filmer votre aventure. Si vous débutez dans l'exploration urbaine, allez-y sans filmer. Parce que quand on filme, on n'est peut-être pas très attentif à l'environnement et on ne va pas faire attention aux trous, aux barres de fer et à tous les dangers qu'on trouve dans des lieux d'exploration urbaine.
Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez entendu, ce n'est pas vraiment autorisé, mais on y va quand même. Attention où vous mettez les pieds et surtout, faites-moi plaisir, lâchez votre téléphone portable. Car il s'agit d'ouvrir les yeux pour garder les lieux ouverts. Nous allons parler d'Urbex aujourd'hui. L'un de ses fondateurs, le Canadien Jeff Chapman, dit Ninja Licious, en définit ainsi la pratique. Trouver, explorer et documenter des lieux hors des sentiers battus. Dans les catacombes ou sur les toits, dans les usines désaffectées comme dans les friches urbaines, les lieux abandonnés peuvent devenir un terrain d'expérience pour l'histoire. Mais quelle histoire ? Celle peut-être des pays disparus et des vies oubliées, celle des traces qui sont au bord de s'effacer, celle qui nous permet de fouiller les décombres pour saisir l'archéologie de notre passé récent. Nous parlions la semaine dernière de l'archéologie préventive, cette nouvelle aventure du savoir qui exhume des vestiges à la faveur de la construction des aires d'autoroutes et des centres commerciaux. Mais ces équipements modernes, qu'en ferons-nous quand ils tomberont en ruine et peut-être plus vite qu'on le croit ? La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. La promenade que l'on vous propose aujourd'hui empruntera peut-être au flâneur de Baudelaire son spleen. On en parle dans Histoire 2 avec l'historien Nicolas Offenstadt qui fait paraître chez Albin Michel Urbex, le phénomène de l'exploration urbaine décrypté. Bientôt rejointe par notre sociétaire du jour, Adila Benejaizou, mais aussi par un invité spécial, le romancier Thomas Reverdy. Nicolas Offenstadt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous enseignez à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et si nos auditeurs vous connaissent peut-être pour vos engagements, pour vos prises de position comme historien dans la cité, aimez-vous dire, c'est à une pratique plus discrète, plus lente, plus patiente de l'histoire que vous nous conviez aujourd'hui, celle d'un historien, je dirais aux marges de la ville, là où s'accumulent les décombres d'un passé récent, un historien qui ne hausse pas la voix mais se penche sur les traces humble de pays disparus, de vies oubliées, ai-je dit, historien de l'urbex, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Et effectivement, c'est une pratique qui est beaucoup plus solitaire et c'est celle dont on parle moins parce que c'est celle, comme vous l'avez définie, qui est d'aller hors des sentiers battus. Mais hors des sentiers battus, il y a plusieurs manières de les parcourir. Et l'urbex, c'est les lieux qui sont délaissés. Il y a une dimension d'abandon, il y a une dimension de marge. Et c'est ces lieux qui m'intéressent, c'est-à-dire quand il n'y a plus personne d'une certaine manière. Parfois, on rencontre malgré tout des gens, et que l'essentiel de la vie qui avait pu habiter ces lieux, que ce soit des usines, des institutions, des casernes, a disparu. Donc, c'est cette idée du délaissement, de l'abandon, d'être à côté. Donc, il y a des choses qui sont hors des sentiers battus, mais qu'on peut aller voir avec une certaine vie. Là, il y a quand même une dimension d'abandon, de quelque chose qui est figé dans le temps, qui donne à l'urbex une tonalité particulière.
Ce qui caractérise votre démarche d'historien, Nicolas Offenstadt, sur la guerre de 100 ans, au Moyen-Âge, comme sur la Grande Guerre, c'est que vous considérez, dans tous les sens du terme, toujours les usages de l'histoire, les usages sociaux de l'histoire. Et là, vous faites l'histoire d'une pratique qui est fille des réseaux sociaux, mais aussi fille de, je dirais, de la pulsion scopique. Il faut aller voir et souvent aller photographier, une pratique récréative et contestataire de jeunes qui se veulent ingouvernables, mais qui a été aussi inévitablement reprise, je dirais, par le capitalisme du tourisme mondial.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand vous disiez que les usages sociaux de l'histoire m'intéressent, c'est un des moyens par lesquels je suis entré dans l'urbex, parce que ce qui est très frappant, c'est qu'il faut le dire aux auditeurs, c'est un phénomène mondial. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de gens partout dans le monde qui font l'urbex. Récemment, il y a une étude qui a été faite sur la Chine. C'est en train de devenir très à la mode en Chine. Mais on en fait aussi au Japon, au Danemark, en Irlande et partout dans le monde.
Vous citez d'ailleurs le Kiev Urbex Tour qui proposait une visite underground de la capitale ukrainienne.
Oui, évidemment, aujourd'hui, on voit que d'ailleurs ces lieux qui, sans doute, peut-être étaient délaissés aujourd'hui, doivent servir d'abri aux Ukrainiens. Donc effectivement, on pouvait en faire absolument partout. Et ça change en fonction des contextes, à la fois politiques, sociaux, démographiques, comme on le voit. Donc une pratique qui est mondiale et qui ne cesse de se développer. J'ai donné dans le livre quelques instruments de mesure, c'est-à-dire que depuis 10 ans, l'urbex connaît un intérêt croissant. On aura peut-être l'occasion de revenir sur ses causes. Mais ce que je voulais dire par rapport à votre question de l'historien et de ses usages, c'est que ce qui me frappe dans ces praticiens, il y a bien sûr des gens qui vont s'amuser. C'est toujours amusant de sauter par-dessus un mur et d'aller voir une usine abandonnée ou de rentrer dans une caserne en imaginant qu'il y avait des soldats et des tanks qui étaient là quelques années auparavant. Mais au-delà de l'amusement, au-delà du jeu, au-delà de l'aventure, il y a quand même une dimension qui est assez fascinante, vous intéressera aussi, c'est le patrimoine. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent ces lieux abandonnés, pas seulement comme des terrains de jeu ou d'aventure, mais comme un rapport au patrimoine, une forme d'histoire amateur. Et donc c'est là où les usages de l'urbex rejoignent aussi les questions de l'historien. J'ai été frappé par des gens qui n'ont aucune formation historienne, qui n'ont pas véritablement, disons, de culture historienne, voire de culture historique, mais qui, lorsqu'ils vont visiter un lieu, tout d'un coup investissent son histoire, essayent de comprendre qui ont été les propriétaires, les habitants. Et j'ai été frappé. Alors pour nous, historiens, ça donne toujours un peu à côté, peut-être un peu amateur, mais moi ça m'a quand même intéressé, je le prends au sérieux.
Bien sûr, comme vous prenez aussi au sérieux, disons, cette communauté plus ou moins réglée, où il y a des collectifs, des rituels, des performances au sens artistique. D'ailleurs, j'aime beaucoup la mexicaine de perforation qui a réparé clandestinement l'horloge du Panthéon. En fait, il s'agissait de remettre les pendules à l'heure.
Oui, tout à fait. Alors, il y a des tas de formes d'urbex et il y a notamment des formes plus ou moins, on pourra dire, carrément acrobatiques et sportives. Vous avez des gens qui vont monter dans des tours à main nue en prenant des risques considérables. C'est vraiment des sportifs, des aventuriers, des acrobates. Et puis vous avez des gens qui ont une perspective un peu plus critique, plus intellectuelle, plus amusée ou plus amusante sur ces lieux-là, et qui vont essayer par exemple d'obtenir les clés d'un certain nombre de réseaux, de la RATP, du Panthéon, pour pouvoir rentrer à leur guise. Et ces gens de l'arme mexicaine de perforation, c'était vraiment les débuts à Paris, ont réussi à s'installer dans le Panthéon, à installer un atelier de réparation clandestin. Les autorités du Panthéon n'ont rien vu et ils ont tranquillement réparé, comme ça, pendant un temps très long, l'horloge qui ne marchait pas. Et donc, effectivement, voyez. Et donc, du coup, tout ça clandestinement, c'est le principe d'être dans un lieu. Voilà. Et du coup, ça pose des questions sur la définition de l'urbex. Est-ce que lorsqu'on est dans un lieu qui est actif, le Panthéon, évidemment, est un lieu actif, visitable régulièrement, mais quand on va dans des lieux actifs, mais dans des endroits qui ne sont pas accessibles, est-ce qu'on fait de l'urbex ou est-ce que c'est une autre activité. Peut-être, et c'est intéressant pour cette affaire du Panthéon, d'infiltration.
C'est ça, oui. Dans votre livre, Nicolas Offenstadt, vous faites donc l'histoire de cette pratique, mais vous faites aussi, par cette pratique, vous faites historien. Je voudrais qu'on parle de ça, de votre pratique à vous. De 2015 à 2017, vous avez enseigné à l'université de Francfort sur l'Oder, à la frontière polonaise, et c'est là que vous avez commencé à explorer les anciens abattoirs, la maison de la culture pour les cheminots, que vous avez commencé à ramasser des objets comme ce manomètre bulgare dont vous parlez très bien dans Le Pays disparu, un autre livre sur la RDA. Vous avez aussi publié RDA Urbex. Et dans le dernier livre, vous dites que la RDA vous a permis de, je vous cite, « sortir l'urbex des perspectives esthétisantes ou ludiques ». Donc pour vous, c'était sérieux et presque grave.
Oui, c'était sérieux et presque grave parce que les deux termes, je les ai choisis à dessein, esthétisantes, parce qu'une des dimensions de l'urbex qui en fait son succès mondial, c'est la photographie. Mmh. C'est-à-dire que beaucoup de gens, des amateurs, voire de très très grands photographes, vont dans ces lieux pour l'esthétique des ruines, pour l'esthétique de l'abandon, pour l'esthétique de la nostalgie. Et donc il y a une dimension esthétique, forcément, qui est très très puissante, parce que ces photos circulent dans de très beaux albums ou alors dans des blogs plus ordinaires. Et donc la photo est centrale, l'image, le visuel, l'esthétique. L'autre élément, je viens de le dire, c'est le ludique, c'est l'idée d'aller se promener. Et moi, en pénétrant ces lieux progressivement, j'ai pas trouvé ça spécialement amusant, même si ensuite on pourra en reparler, mais il y a un côté amusant dans la pratique quand même, et pas du tout l'esthétique, j'étais pas du tout sensible à cet aspect-là, mais comme historien j'étais vraiment figé dans le passé. C'est-à-dire que, notamment dans l'ex-RDA, quand vous rentrez dans ces lieux, il y en a qui ont été arrêtés il y a 30 ans, parfois un peu avant, parfois un peu après, et vous trouvez donc tout un ensemble de traces de vie des gens qui les avaient occupés. Et là, du coup, comme historien, c'est quelque chose qui évidemment vous saisit, vous n'êtes plus du tout ni dans le jeu, même s'il faut faire attention de ne pas tomber, ni dans l'aventure. Et vous dites, mais finalement, pourquoi ces gens ont laissé des caisses de crevettes qui venaient du Vietnam par centaines? Comment ils sont partis? Pourquoi est-ce que j'ai le bureau d'un directeur d'un combinat avec sa cigarette écrasée en 1990, avec ses agendas qui sont encore sur le bureau? Et donc, du coup, vous êtes en fait, vous êtes plongé en quelque sorte, plongé presque avec la dimension de mouvement, hein, vous sautez dans l'histoire. Et là, forcément, vous n'êtes plus du tout dans un rapport, disons, amusant ou de vacances ou d'aventure.
Et vous faites mémoire en retournant le stigmate des décombres, Nicolas Offenstadt, où vous écrivez que vous faites d'un abandon un lieu d'expérience. Et ça, c'est quand même assez important, il faut le dire à nos auditeurs, sur la pratique de l'histoire. C'est que vous allez proprement ramasser des vestiges, qui sont des objets dont on peut reconstituer la biographie. Alors en RDA, on trouve effectivement beaucoup d'objets qui viennent du Vietnam, qui viennent de Hongrie, de Pologne, etc. Mais aussi des archives, c'est plus surprenant, des albums de photos, des journaux, de la documentation d'entreprises dans les usines désaffectées.
Oui, c'est évidemment là où les choses se nouent. Particulièrement pour l'historien, c'est que au départ j'y suis allé sans a priori, hein, même les premières urbex étaient antérieures à mon séjour en Allemagne.
Et j'étais allé... fait presque 300. Hein,
oui, j'en ai maintenant, j'ai encore
le compteur a augmenté.
Le compteur a augmenté, j'en ai fait plus 350, mais peu importe. Sauf que c'est toujours aussi intéressant. Et donc dans un des premiers que j'ai fait, je me rappelle, ça devait être en 2012 à Schwerin, donc dans le nord de l'Allemagne de l'Est. Je suis tombé donc dans une brasserie sur un dossier personnel. Donc il s'agissait pas simplement de circulaires. Des circulaires, on peut en trouver assez facilement, ou des modes d'emploi de machines. Mais là, j'avais la vie d'un monsieur, d'un ancien ouvrier qui était par terre à l'abandon. Donc ça m'a intrigué comme historien et on aurait pu croire à un cas exceptionnel. Et plus j'ai fait de l'urblex, plus j'ai découvert des archives, y compris des archives qui sont uniques. C'est-à-dire que c'est pas simplement de la documentation abandonné, c'est des choses que vous ne trouvez que là.
Oui.
Alors, des archives parfois manuscrites, hein, qui peuvent être par ailleurs dans les archives. Pour avoir une idée, j'ai trouvé par exemple dans une usine d'agroalimentaire les registres des réunions du parti, parce que le parti est évidemment très important, le parti communiste dans les usines de RDA. Et donc à l'intérieur, il y avait les registres des délibérations, donc avec tous les débats les plus tendus de l'époque, et tout ça a été manuscrit, abandonné dans la boue, et on trouve des choses comme ça tout à fait passionnantes. Et donc là, évidemment, l'historien est troublé.
Ça, vous l'avez décrit, notamment dans Le Pays disparu. Est-ce que la pratique de l'urbex n'est pas, au fond, amnistiante? Je veux dire qu'elle nous amène, au fond, à nous attendrir sur Le Pays disparu. On a pu vous critiquer, par exemple, sur l'ostalgie, c'est-à-dire, finalement, on trouve des objets, c'est forcément touchant.
Oui, c'est forcément touchant, et je dirais, ça peut être amnistiant, ça peut être aussi accusateur, parce que il y a les deux aspects. Vous avez quand même une interrogation qui vient, qui est pas seulement sur le fond de ce que vous trouvez, mais pourquoi c'est là? Pourquoi est-ce qu'on a abandonné des vies? Donc il y a d'abord une dimension qui peut être aussi accusatrice, alors du capitalisme, ou voire du socialisme, quand il y a des choses que vous découvrez là, qui ont été abandonnées de manière antérieure. Donc ça peut aussi... Et d'ailleurs, il y a une dimension militante chez certains urbexeurs, qui est de dire, regardez l'État de ce qu'on a laissé, ce que le capitalisme, ce que les stratégies industrielles ont abandonné. Mais je ne fuis pas votre question, hein, je vais vous répondre dans un instant. Il y a une dimension peut-être amnistiante au départ, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous dites, vous trouvez les objets, vous trouvez les archives de quelqu'un, vous avez toujours une tendance à la bienveillance. Mais on a un métier qui est celui d'historien, donc notre boulot, c'est ensuite de produire de la distance. Donc non. Le premier mouvement, ça peut être effectivement de
mouvement et ensuite, empathique,
empathie, intérêt, et puis un peu le côté indigné, qui peut être toujours facile de dire pourquoi c'est là. Mais ensuite, moi, j'ai toujours essayé, même quand les objets me touchaient, même quand les questions me touchaient, de produire de la distance après. Donc, vous prenez un peu de temps, vous dites attention, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Est-ce que déjà vous mettez en série, c'est-à-dire est-ce que ce que j'ai trouvé est intéressant ou pas. Donc il y a tout un travail après qui est une opération. Donc je réfute complètement l'idée de l'ostalgie. Le travail de l'historien, il s'opère après. Mais ça ne veut pas dire que la sensibilité n'a pas eu des effets moteurs au départ.
Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
Adila Benedjarizou, vous allez nous rejoindre. Vous avez vécu à Rome, vous, mais vous fûtes aussi une promeneuse des ruines de Rome, mais pas celle auxquelles on pense.
Non, loin du Forum, du Colisée et des églises baroques, j'ai suivi le groupe Stoker qui invite à arpenter la ville dans des zones de ruines d'un passé plus récent et plus problématique souvent.
Eh ben, on en parle tout à l'heure. Toujours en compagnie de Nicolas Offenstadt, auteur de Urbex, le phénomène de l'exploration urbaine décryptée, paru chez Albin Michel, nous explorons cette archéologie de notre passé récent que nous révèlent les lieux abandonnés aux marges ou aux interstices de notre ville. Ils s'enfonçaient dans l'abandon qui précède les ruines, lit-on dans le très beau roman de Thomas Reverdy, paru en 2015, Il était une ville. Nous en parlerons tout à l'heure, mais en attendant, place à Adila l'exploratrice. Adila Benedjaizou, vous souhaitiez nous parler de ce groupe d'activistes romains qui porte le nom du film culte de Tarkovsky, Stalker.
Stalker qui invite à visiter ce qu'ils appellent des territoires actuels, c'est-à-dire des lieux de la mémoire réprimée et du devenir inconscient des systèmes urbains. C'est comme ça qu'ils les nomment. En les suivant, vous pouvez par exemple faire une visite de Léour, ce quartier fasciste de la périphérie de Rome. Une visite qui se fait sans honte, mais sans nostalgie non plus, et où les membres de Stalker peuvent vous raconter l'histoire de l'édification de ces bâtiments qui a eu lieu à la fin des années 30, leur inauguration impossible, leur déshérence et leur squat par des gens qui étaient sans domicile fixe. Les Jeux Olympiques de 1960 qui les rénovent. Et enfin, le fameux Colisée carré que tous les Italiens connaissent et qui est racheté en 2015 par Fendi.
Oui.
Ainsi, ils racontent des strates. Ils nous font une histoire urbaine des différentes couches d'histoire de Rome. Et c'est leur force. Ils sont aussi intervenants dans la ville au sens où au début des années 2000, par exemple, en plein centre de Rome, dans le quartier du Testaccio, ils se sont emparés d'un des territoires qu'ils avaient traversé, un ancien abattoir, pour y créer un centre culturel pour les exilés kurdes.
Il y a beaucoup d'abattoirs aussi, Nicolas Offenstadt, dans vos livres, notamment Urbex RDA, c'est un des lieux, effectivement, parfois réaffectés, devenant des boîtes de nuit que vous avez explorées.
Oui, tout à fait. Les abattoirs en Allemagne de l'Est ont été pas mal abandonnés. Certains étaient obsolètes, certains inutiles avec les nouvelles conditions économiques de la réunification. Donc, c'est souvent des lieux immenses, assez prenants. Effectivement, le groupe Stalker est très passionnant. On peut voir quelques-unes de ces vidéos et de leurs dérives urbaines en Italie qui sont très intéressantes parce que ce qu'ils partagent notamment avec l'Urbex, c'est pas tant Eur, parce que ça, c'est quand même un lieu très canonique quand même de la mémoire fasciste, que aussi l'idée de prendre des chemins de traverse. Hein, on les voit passer par là où ils ont envie de passer. Il y a une appropriation libre de l'espace aussi dans les déambulations que moi j'ai trouvé très fascinante.
Et puis il y a aussi un autre haut lieu de l'urbex, c'est Detroit aux États-Unis. J'ai envie de vous faire aussi entrer tout de suite dans la conversation, Thomas Reverdy. Vous avez publié Climax, qui est pour moi le grand roman contemporain de la fin du monde, mais aussi un roman d'aventure scientifique. Est-ce que je me trompe si je dis de vous que vous êtes un romancier de l'évaporation du monde, de son apocalypse lente, ainsi dans ce thriller mélancolique qu'est « Il était une ville », vous décrivez Detroit comme une ville jetable, où on abandonne les bâtiments plutôt que de les détruire ou de les relever.
Oui, j'ai toujours effectivement travaillé sur des sujets comme ça, proches des ruines ou des fantômes ou des évaporations. Enfin, et la première fois que je l'ai fait consciemment, c'était sans doute avec ce bouquin qui se passe au Japon, qui s'appelle Les Évaporés,
bien
avec
sûr.
Effectivement ce phénomène de gens qui décident de s'éclipser de leur propre vie en quelque sorte. Et c'était dans l'après Fukushima. Et c'est là, je crois d'ailleurs, que j'ai croisé l'étonnant livre de Marchand et Meffre, deux photographes français, qui avaient réalisé un bouquin sur l'île usine de Gunkanjima, qui est une île minière abandonnée au Japon, tout à fait fascinante, qui a servi de décor notamment au final d'un James Bond récemment. Et m'intéressant à eux, alors que j'étais au Japon, je découvrais qu'ils avaient publié 2 ans avant ce bouquin sur Détroit,
un
qui
livre
est
important.
Absolument incroyable et qui a été sans doute pour moi le déclencheur effectivement de l'écriture de d'Il était une ville.
Vous le citez aussi,
oui,
Nicolas.
Oui, je le cite et j'aime beaucoup aussi leur œuvre parce que elle est intéressante à plein de titres. D'abord, c'est des très grands photographes. Hein. Ils ont une technique, ils photographient à la chambre, ils prennent énormément de temps. Donc c'est vraiment déjà une œuvre picturale incroyable, hein, le livre sur Détroit, Gunkanjima. Et ils viennent d'en faire un aussi magnifique sur les théâtres abandonnés, les théâtres cinéma abandonnés aux États-Unis qui vient de sortir. Donc c'est une œuvre lente aussi. C'est-à-dire qu'ils prennent leur temps, ils développent les lieux. Voilà. Donc du coup, ça c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est qu'ils ont un sens aussi de l'histoire. C'est-à-dire que les lieux ne sont pas uniquement des objets photographiques, des objets esthétiques, mais ils demandent à des historiens ou eux-mêmes font des recherches pour situer quand même l'image en perspective. Donc c'est aussi évidemment pour nous très important.
Oui,
de
parce
ne pas...
qu'il y a des fausses évidences dans ces images, notamment de Detroit. On se dit, oh là là, tout s'est effondré après la crise des subprimes. En fait, c'est plus compliqué que ça. Parfois, les ruines sont plus anciennes et leur travail, c'est aussi de mettre à distance ce dont vous parliez, Nicolas Offenstadt, cette puissance émotionnelle de l'image par justement l'histoire.
Oui, absolument. Et donc, du coup, quand ils ne sont pas capables, parce qu'on ne peut pas être tout photographe historien, ils demandent dans certains de leurs albums à des historiens ou à des spécialistes du lieu d'en donner un point de vue. Et du coup, leur œuvre a une puissance aussi par ce jeu entre l'historicité, le temps et l'image. Et on le voit aussi dans les théâtres, dans leur dernier travail. Et du coup, c'est d'ailleurs assez problématique dans d'autres types d'albums photographiques qui peuvent être très très intéressants sur le plan esthétique, mais qui sont complètement déconnectés du contexte.
Oui.
Et notamment des lieux qui peuvent avoir été victimes de bouleversements socio-économiques terribles. Et le photographe s'est arrêté. Je me rappelle, il y a un très bon album sur des fermes islandaises. Donc on se dit pourquoi des fermes sont abandonnées. Comme historien, on a envie de savoir est-ce que c'est lié à des déprises agricoles ou pas. Et en fait, on n'en sait rien. Donc ça pose des questions, mais là, et eux, justement, ont évité cette déconnexion, cette décontextualisation.
Et tout votre livre, Thomas Reverdy, je crois qu'on peut le lire aussi, Il était une ville, comme une sorte de protestation contre ce qu'on a appelé le porno des ruines, justement. C'est-à-dire une vision qui est absolument pas voyeuriste de ces décombres.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on ne sait pas trop d'où naît la fascination devant ce genre d'image. Un autre aspect du bouquin de Marchand et Meffre, c'est l'incroyable collection qu'il propose. C'est-à-dire, on a des milliers de photos, en fait. Et il y a un effet, d'abord de sidération, mais qui devient, au bout d'un moment, un petit peu écœurant. Et alors pas au sens de rune porn, hein, du porno des ruines, mais au sens où ça devient un petit peu révoltant. Et effectivement, à Détroit, on s'est... Vous voyez, il y a... Alors moi, je l'aborde d'une façon évidemment beaucoup plus de romancier. Hein. Donc ça me fait penser, vous voyez, quand j'entends Nicolas Offenstadt parler de ses explorations, je me dis, tiens, c'est fascinant, il se glisse dans ces bâtiments comme un fantôme. Et puis qu'est-ce qu'il y trouve? Il y trouve des traces d'autres fantômes. Mmh. En fait, moi, ça m'évoque plus Shining, par exemple. Hein, vous voyez, c'est-à-dire cet hôtel vide avec ce type qui rencontre des fantômes dans la salle de bal, quoi. Et Détroit, ça faisait cette impression-là, c'est-à-dire on peut pas tout à fait... Bien sûr, il y avait cette espèce de fascination d'être dans un centre-ville américain totalement vide et de pouvoir marcher pendant 2 heures sans croiser personne, d'être inquiet par cette absence. Et puis tout à coup, on croise quelqu'un, et en fait, on est inquiet de croiser quelqu'un parce qu'il a pas de raison d'être là, quoi. Donc il y avait ce mélange comme ça qui était absolument fascinant, mais qui était presque fantastique, en vérité. Hein, le plus beau film sur Détroit, c'est sans doute celui de Jarmusch, fait, le Only Lovers Left Alive, qui rapporte ça à une histoire de vampire, donc en ramenant aussi ce fantastique-là, et cette espèce de... Parce que finalement, ces images, elles sont... Enfin, elles interrogent l'absence, mais comme quelque chose de... Je veux dire, il y a, je vais ramener une autre référence cinématographique un peu incongrue, La planète des singes. C'est-à-dire que pour une fois, donc on voit des ruines, effectivement, on parle de ça depuis tout à l'heure, là, mais c'est les ruines de notre propre civilisation. Et en fait, ça fait un effet quand même... Enfin, ça fait un drôle d'effet.
Et d'ailleurs, pour parler d'effet, il y a aussi celui, Nicolas Offenstadt, de ce qu'on appelle l'archéologie industrielle. Vous le dites bien, lorsqu'on rentre dans une usine, au fond, il faut avoir l'œil aiguisé, le sens de l'empathie et voir justement les disparus, c'est-à-dire être en immersion, essayer d'entendre les sons perdus, les odeurs, les gestes, et que tout cela se repeuple par l'imagination.
Oui, d'ailleurs, l'archéologie industrielle s'est développée dans les sciences sociales dans les années 1970-1980 en mettant le lieu au centre d'une histoire des techniques, d'une histoire économique, d'une histoire sociale. Donc, c'est devenu une discipline qui prête énormément attention justement aux petites choses, aux objets, à leur disposition. Mais ce qui est quand même le propre de l'urbex par rapport à l'archéologie industrielle, c'est qu'évidemment, on n'a aucune règle.
Oui.
L'archéologue industriel est quand même dans un processus de recherche, donc il recherche plutôt des autorisations, il essaye de travailler avec les autorités. L'urbexeur, s'il n'a pas d'intention de recherche, est totalement libre. Et quand il veut produire du patrimoine, ou en tous les cas produire des questions avec sa promenade, il faut effectivement qu'il ait ce regard tout à fait aiguisé. Et donc du coup, c'est un regard multiple, parce que vous avez à la fois, il faut un regard esthétique, un peu du photographe, on l'a dit, et il faut ensuite aussi le regard de l'historien. C'est pour ça que l'urbex peut aussi se préparer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le lieu sorti de nulle part, hein, qui est parlant, on l'a dit, et qui produit de l'émotion. On peut travailler en amont et en aval sur ces lieux. On peut même trouver des choses sur place. Peut-être qu'on en reparlera, mais la rencontre avec les gens, on en parlait de ces gens qui peuplent les lieux abandonnés, parfois aussi une source pour l'historien.
Thomas Reverdy, justement, puisqu'on parle d'historien, vous êtes également associé à un historien, Sylvain Venner, pour écrire un roman, Le Jardin des Colonies, qui est aussi d'une certaine manière un essai littéraire sur l'urbex dans les bordures du bois de Vincennes, mais aussi dans les ruines du passé colonial de la France.
Oui, c'est un jardin qu'on appelle le jardin d'agronomie tropicale, qui était au tournant du 19e et du 20e siècle, un des jardins d'essai qui pilotait du coup les essais qu'on faisait de culture dans les colonies, etc. Et alors, on a fait ce récit avec Sylvain Venner parce que effectivement, c'est une sorte de méditation sur ces ruines, sur ce qu'on peut en faire. Parce que là, s'agissant du passé colonial et des ruines de bâtiments qui venaient d'expositions coloniales à Marseille, à Paris, qui étaient récupérés en 24, en 35, et qui atterrissaient dans ce jardin.
Et certains sont en bon état, quand même.
Alors, certains sont en bon état, mais la plupart sont tombés gentiment en ruines. Et la vérité, c'est qu'on sait pas trop quoi en faire. Parce que si on les rénove, on fait un Disneyland de la colonie. Si on les laisse tomber complètement en ruine, ça veut dire qu'on méprise cette histoire. En fait, on ne sait pas.
Et c'est aussi l'histoire d'un essai, Adila Benedjaizou. Vous m'écriviez hier un mail, ça ne vous embête pas si je lis notre correspondance privée. Bah, c'était juste pour préparer cette émission.
Je ne vous écrirai plus jamais,
voilà. Et vous évoquiez les ruines de l'aérotrain qui me fendent le cœur à chaque fois que je prends le train pour Châteauroux. Je ne savais pas que vous alliez tant de fois à Châteauroux, mais je savais que c'est facile de vous fendre le cœur parce que vous êtes une grande sensible. Écoutez.
250 km à l'heure. Depuis 6 ans, cet aérotrain expérimental fait des allers-retours solitaires près d'Orléans. Moyen de transport ultra moderne, il est maintenant parfaitement au point. Reste une question, va-t-on bientôt construire une première ligne commerciale? Le gouvernement a dit oui. L'aérotrain est une invention française, il faut donc l'exploiter d'abord chez nous pour notre confort et pour la faire connaître à l'étranger et la revendre avec bénéfice pour la France. Une ligne sera donc créée près de Paris, Sergi Pontoise, La Défense.
Monsieur Kaplan, qu'est-ce que cela veut dire pour les usagers?
Ça veut dire que techniquement, les problèmes sont résolus. Il faut maintenant qu'on décide des lignes ouvertes au public, car quand Orléans aura fait circuler un véhicule dans très bonnes conditions, ça ne sert à rien pour le public.
À quelle date le public pourra-t-il voyager sur aérotrain?
Alors ça, vous pensez bien que la question n'est pas entre nos mains. Si une décision était prise demain, nous sommes prêts sur tout ce qui compose cette ligne, aussi bien la voie que vous avez vue que le véhicule. J'estime qu'il faudrait 2 ans et demi à partir du moment où le feu vert serait donné, c'est-à-dire les moyens seraient fournis.
C'était en 1968. Avec l'urbex, on devient, au fond, historien d'histoires qui n'ont pas eu lieu. Vous le dites, Adila Benedjaizou, sur les lieux qu'on a rêvés.
Sur des lieux d'une histoire qu'on a rêvée, mais qui n'est jamais advenue. C'est notre échec collectif qu'on visite ensemble.
Et c'est ça qui vous brise le cœur, alors?
C'est ça qui me touche énormément.
C'est la même chose, d'une certaine manière, avec la RDA. C'est-à-dire, Nicolas Hoffenstadt, cette idée que, voilà, c'est pas seulement le pays qui a disparu, c'est au fond quand même, malgré tout, le rêve politique qui le fondait.
Bien sûr, et surtout ce qu'on découvre, et notamment en faisant l'entretien avec les gens qui ont vécu cette période-là, c'est que l'espoir a longtemps tenu. Hein, l'idée que le socialisme, surtout d'une Allemagne qui, il faut le rappeler, l'Allemagne évidemment c'était une Allemagne qui est née de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme, donc cette idée d'une autre Allemagne, c'est un espoir qui a été véritablement vécu par beaucoup de gens. Et d'ailleurs ce qui est assez merveilleux dans l'urbex, c'est que le fait de visiter ces lieux abandonnés déclenche souvent la parole des gens qui sont à côté. Vous dites, mais pourquoi vous voulez rentrer là? Alors parfois c'est un peu agressif, et c'est le voisinage qui contrôle, mais parfois on bascule vers l'échange. C'est-à-dire quand on voit que vous êtes tout seul, pas méchant, les gens disent, ah mais j'étais le gardien de cette propriété, j'y ai vécu, j'y ai travaillé, j'y ai dansé, j'ai rencontré ma femme. Et ce qui m'a frappé, moi, c'est qu'en fait, c'est aussi un lieu d'échange, l'urbex. On trouve des gens à l'intérieur, parfois, qui font comme vous, mais on trouve aussi à l'extérieur des gens pour qui ces lieux ont encore énormément de charges affectives. On parlait de cet aspect émotionnel dans le rapport aux ruines. Et comme historien, j'ai aussi déclenché des paroles et récupéré des paroles grâce à ce type de visite, parce que si vous le faisiez pas sous une forme urbex, vous n'auriez pas ce type de paroles libérées, puisque vous êtes dans une situation finalement étrange. Donc ça crée aussi une facilité pour les témoins de parler ce qu'ils ont vécu dans ces lieux-là, puisque vous vous y intéressez vraiment, vous voulez rentrer alors que c'est fermé. C'est donc quelque sorte, vous êtes authentique, et donc du coup on peut vous parler.
Dans son dernier livre « Obsolescence des ruines », qui est paru aux éditions Inculte, le philosophe Bruce Bégout évoque aussi largement l'urbex et pose ce paradoxe des décombres. Nous ne vivons pas dans un monde en ruines, mais dans une civilisation des gravats, écrit-il, puisque nous savons désormais que les bâtiments que nous construisons sont plus fragiles que nos vies mêmes. C'est ça aussi ce spleen baudelairien dont je parlais au début, Thomas Reverdy,
Oui, d'ailleurs, on citait le film de Jarmusch, très beau, sur des vampires, là, qui nous montre bien qu'on est encore en pleine période romantique décadente, là. En fait, on est fasciné par le spectacle de notre propre déréliction et on se regarde sombrer gentiment.
C'est, au fond, le siècle des Lumières qui a défini l'universalité des ruines, où se promener dans les décombres, c'est se laisser gagner par une leçon d'histoire, mais aussi de morale. Je voudrais citer pour terminer le très beau livre, le livre somptueux de l'archéologue Alain Schnapp, Une histoire universelle des ruines, des origines aux Lumières. Et ça commence par cette phrase de Chateaubriand. Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines. Ce sentiment tient à la fragilité de notre nature, à une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de notre existence. Mais à vous écouter, toutes et tous, c'est pas l'attrait pour les ruines, c'est quand même la vie qui vous attire.
Oui, et si vous permettez, il y a une dimension aussi qui n'est pas simplement la déréliction, la dégradation, c'est qu'on peut se saisir des ruines aussi comme un objet très contemporain, un objet politique, pour interroger notre présent. Donc il n'y a pas que de la nostalgie. Et il y a une dimension politique dans l'urbex qui est se dire finalement pourquoi ces abandons, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et donc il y a un enjeu critique finalement, il y a aussi une tension dans la ruine. Il n'y a pas seulement une nostalgie.
Adila Benedjaizou.
Les stalkers parlent de perdre du temps pour gagner de l'espace. Eh bien, je pense qu'on gagne aussi du temps, d'autres temps.
Thomas Reverdy, le dernier mot vous revient.
Au moment du Jardin des Colonies, on avait rêvé au projet de Libeskind sur le World Trade Center, quand il avait réussi à figurer dans l'architecture de façon concrète les trous qui étaient cet espace transitoire et de ruines laissé par l'impact. Et c'était un très beau projet d'architecture qui, me semble-t-il, porte un sens particulier.
Merci Thomas Reverdy, merci Nicolas Hoffenstadt, merci Adila Benedjaizou. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Xavier Pestugia. La technique était assurée aujourd'hui par Adèle Caglar. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques sur le site de France Inter à la page de notre émission. La semaine prochaine, nouvelle diffusion de l'émission consacrée à l'histoire des luttes environnementales avec l'historien Charles-François Matisse. Bon dimanche sur France Inter.